Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, le chrétien face à l'argent. Ou bien, si vous préférez, notre rapport à l'argent en tant que chrétien et à nos finances personnelles. Vous allez voir que la Bible parle beaucoup, beaucoup de ça, de différentes façons. Et ça nous aide tous. Moi, le premier, je n'ai pas vraiment appris quand j'étais jeune, à administrer mes choses personnelles. Ça a été au cours de différentes expériences où j'ai reçu de l'aide pour apprendre ces choses-là, et je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. C'est un peu une faille dans nos sociétés que de ne pas enseigner aux jeunes comment administrer leurs choses et comment établir leurs priorités. Alors, j'ai appris à travers ça, puis on a encore à apprendre. Et quand on découvre ce que la Bible nous montre, on a des lignes directrices qui nous aident énormément. Parce que Dieu en parle beaucoup dans sa parole. Dieu en parle beaucoup dans la Bible pour nous aider à ce que notre vie soit meilleure et à ce qu'on connaisse une vie plus stable et plus heureuse de ce côté-là. Et le message que je vous donne aujourd'hui, je l'ai tiré essentiellement d'une présentation qui a été donnée par M. Stuart Vahovic, le directeur canadien de l'Église. C'est un homme d'expérience. Et vous allez apprendre à le connaître à mesure que les événements vont passer et qu'il va sans doute venir nous visiter, j'espère aussi, bientôt. Mais M. Vahovic a fait une présentation sur les finances personnelles que j'ai trouvée particulièrement intéressante et qui peut être très utile pour chacun d'entre nous, les plus anciens dans l'Église, comme les plus nouveaux, et les jeunes gens qui sont avec nous dans l'Église et qui commencent leur vie. C'est formidable quand, au début de notre vie, on peut faire des choix éclairés basés sur des bons principes qui vont nous amener à des bons résultats. Vous savez, la question de l'argent, c'est un sujet que les gens ne relient pas automatiquement à la question de la religion. Puis pourtant, c'est directement relié à la façon chrétienne de vivre. Et c'est relié directement à notre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Ça a une importance majeure, comme vous allez le voir, et je dirais surtout pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, alors que nous vivons dans une société qui est totalement tournée vers le matérialisme et qui met l'argent, vous le savez, comme première priorité en tout et partout. Alors, surtout nous qui sommes parvenus au temps de la fin, c'est encore plus important qu'on sache comment Dieu voit les choses et comment nous, on doit faire les choses. Je vous donne un exemple de l'état des choses actuelles. Les Canadiens sont de plus en plus endettés. On en parle régulièrement aux nouvelles et le directeur de la Banque canadienne vient de mentionner que ça continue de façon inquiétante. Non seulement l'endettement des gouvernements, mais l'endettement des individus. En 2013, je vous donne des chiffres. En 2013, par exemple, l'endettement individuel moyen se situait à 163 % du revenu annuel. 163 % du revenu annuel. Donc, chaque année, on creuse. Ça, c'est en 2013, c'est-à-dire. 2014, une année après, ça a passé de 163 % à 170 % du revenu annuel moyen, l'endettement. Alors, ça vous donne une idée de la rapidité de la croissance de ce phénomène malheureux. Quand on parle de cet endettement moyen, on peut comprendre quand c'est quelqu'un qui vient de s'acheter une maison, par exemple, et qui a donc une grosse hypothèque qui entre dans les chiffres. Mais quand on regarde l'ensemble des chiffres, on se rend compte que même pour ceux qui ne sont pas propriétaires, c'est le même phénomène. Et les gens, dans l'ensemble, ont de très grosses dettes. Des dettes consacrées à la consommation, acheter des choses à paiement, année après année, ajouter achat à achat, et finalement, ça fait boule de neige et les gens viennent pris à la gorge. Grosse dette à cause des cartes de crédit aussi. Combien de fois j'ai vu des gens être trappés dans les cartes de crédit parce qu'en pensant que ça posait pas de problème d'acheter là-dessus. Mais acheter là-dessus, il faut payer aussi. Et tôt ou tard, il y a une réponse qui doit être donnée. Alors, les gens ont des dettes énormes. Maintenant, je vous apprends rien, mais c'est bon qu'on le réalise. Notre culture encourage totalement l'endettement personnel. Même nos gouvernements nous encouragent à l'endettement personnel parce qu'eux autres, ils voient là leur survie. Alors, la culture dans laquelle on vit encourage l'endettement personnel est énorme. Et les gens deviennent stressés, les gens deviennent incapables de rencontrer leur fin de mois. Ça crée des problèmes dans les couples, dans les familles. Il y a plein de conséquences négatives à ça qu'on voit un peu partout autour de nous. Les gens, et là-dedans j'inclus petit moi, les gens, au point de départ, ont tendance à se convaincre d'avoir besoin de certaines choses. Et c'est facile de se convaincre que j'ai besoin de telle chose, alors qu'en fait, j'aimerais simplement l'avoir. C'est un désir. Mais on se convainc qu'il s'agit d'un besoin absolu dont il ne faut pas se passer. Qu'on ait les moyens ou non, et c'est là que le crédit entre en ligne de compte, et les problèmes qui s'en suivent. L'économie de nos pays, si vous regardez ça comme il faut, l'économie de nos pays, elle est basée sur l'endettement. Elle est basée sur l'endettement. C'est pas pour rien que la Grèce est rendue dans l'état où elle est rendue et que d'autres pays approchent cette situation-là et que nos pays suivent derrière à un rythme assez rapide. Parce qu'à un moment donné, à force d'emprunter, il vient un temps que simplement le service de la dette, qu'on appelle l'intérêt qu'on doit payer sur ce qu'on a emprunté, gruge tellement du revenu annuel que vous n'êtes plus capable de fonctionner ou de réparer ou d'organiser votre économie. Alors, l'économie de nos pays, elle est basée sur l'endettement. Nos pays s'endettent et ils continuent de s'endetter. Tant et si bien, vous vous rappellerez, moi, ça m'avait frappé. Je n'avais pas tout à fait compris sur le coup. Après que les tours jumelles ont été frappées par le terrorisme aux États-Unis, 11 septembre 2001. Quand le président Bush est allé sur place pour faire un discours, qu'est-ce qu'il a dit à la nation pour s'en sortir? Allez, achetez, consommez! Je me disais sur le coup, quel rapport qu'il y a avec le terrorisme qu'il y a ici? Bien, il voulait justement stimuler l'économie pour que l'économie puisse continuer dans la même direction. Voyez-vous, parce qu'elle est basée sur l'endettement. Le président n'a pas dit, si vous avez les moyens, aller acheter. Non, non, acheter. Acheter à tout prix. On verra plus tard ce qui va arriver. Actuellement, on le voit, l'économie ralentit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gouvernements et les banques prônent l'endettement comme étant la seule solution. On voit, par exemple, dans les partis politiques qui sont en campagne électorale, c'est qui donnerait le plus gros chiffre de dépenses qu'ils vont engager pour l'État pour faire plein de projets. On est déjà endetté jusqu'au cou. Donc, on va aller vers un endettement additionnel si on suit cette logique, qui ne règle rien, absolument rien, mais qui creuse la fosse encore davantage. Malheureusement, dans un contexte comme on vit actuellement, les limites de crédit pour les gens sont augmentées. On les augmente, que vous le vouliez ou non. Moi, j'ai une carte de crédit, ça m'avait tellement fâché. J'ai une carte de crédit, puis je fais attention, je la suis comme il faut, je vous l'expliquerai tantôt. Je la suis comme il faut, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la banque avait augmenté ma limite de crédit de plusieurs milliers de dollars. J'étais pas content. Parce que si quelqu'un prend ma carte de crédit et la vide, bien, ils vont la vider avec beaucoup plus dedans que ce que je peux normalement affronter. Alors, je suis allé à la banque, je n'étais pas trop content. On a corrigé cette chose-là. Ils ont ramené ma limite de crédit pas élevée, ce qui me convient, moi, pour faire mon activité courante, c'est tout. Mais c'est pour vous dire qu'actuellement, les limites de crédit sont augmentées et les taux d'intérêt, vous remarquez, ils sont bas et on veut les baisser encore. Pourquoi? Pour que les gens consomment. Pour que les gens consomment. Et je vais vous donner tantôt dans quel contexte que tout ça est venu et quel danger ça représente. Limite de crédit élevée, taux d'intérêt très bas, ça pousse les gens à quoi? À s'endetter davantage. Mais tout ça a une fin. Il y a un mur quelque part. Et plus on s'endette à cette vitesse-là, plus le mur vient rapidement et plus le choc sera très fort. Quelles sont les directives que Dieu nous donne par rapport à l'argent? C'est pour ça que je vous donne ce message-là, parce que quand j'ai entendu M. Varovitch, j'ai dit ça peut nous être utile et ça nous aide à comprendre le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas le monde de Dieu, mais que nous devons agir autrement dans ce monde-là, parce qu'on va devoir enseigner d'autres bientôt les mêmes choses. Alors, c'est quoi nos rapports avec l'argent selon Dieu? Quelle façon on doit envisager la chose et de quelle façon on doit utiliser l'argent? Il y a un lien direct entre notre façon de considérer l'argent, d'aborder ces questions-là, et notre vie spirituelle. Plus nous appliquons ce qu'on va voir, la perspective divine, plus nous pourrons éviter la grande volatilité que le monde connaîtra bientôt. dans ce qui va se passer. Mais je ne vous apprends rien, les voies de Dieu ne semblent pas logiques aux yeux du monde. Elles ne semblent pas logiques du tout aux yeux du monde. C'est pour ça que les gens ne les suivent pas non plus. Mais Dieu promet de soutenir ceux qui les mettent en pratique. Dieu promet, c'est une promesse. Et Dieu est fidèle. Et écoutez, on peut le dire dans ces termes-là, les résultats seront assurément beaucoup meilleurs que si nous ne le faisons pas. C'est des lois inexorables, c'est comme la loi de la gravité. Je n'ai pas besoin de penser qu'elle existe ou non. Si je vais sur un édifice puis que je dépasse le toit, que je connaisse la loi ou non, je vais tomber et je risque de me tuer. C'est une loi opérante et c'est la même chose du côté financier. Aujourd'hui, on va voir quelques clés que Dieu donne aux humains pour qu'ils utilisent sagement les ressources que Dieu nous donne, même si on n'a pas beaucoup de ressources. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un grand budget à administrer, là. Même un jeune qui commence, il doit avoir les bonnes règles pour être capable de s'établir solidement puis bâtir son avenir de bonne façon. Dieu sait que l'argent est important pour les hommes. Il y a des études qui ont démontré clairement que c'est d'ailleurs une grande partie de la préoccupation des gens. Hein? Comment est-ce que je peux gagner? Est-ce que je peux gagner plus? Comment est-ce que je vais utiliser l'argent que j'ai? Comment est-ce que je dois l'administrer? Est-ce que je dois mettre de l'argent de côté? Toutes ces questions-là. Et ça occupe les gens. C'est normal. Écoutez, la Bible dit que tout ce qu'un homme fait, c'est pour sa bouche. Donc, toute notre activité, c'est pour organiser notre vie, la vie de nos enfants, nos descendants et tout ça. Alors, ça a rapport automatiquement avec la question financière. Peut-être que ça va vous surprendre. Mais dans la Bible, dans toute la Bible, d'un couvert à l'autre, il y a 800 passages environ qui se réfèrent à l'argent. Dans la Bible, il y a 800 passages qui se réfèrent à l'argent. Et seulement dans les Proverbes, il y a 130 passages qui parlent de l'argent. Alors, c'est évident dans ce sens-là que Dieu veut nous instruire à ce sujet-là. Et souvent, les gens ont des problèmes d'argent parce que c'est dû à des mauvaises décisions qu'ils ont prises, des décisions imprudentes, déraisonnables, ne connaissant pas comment fonctionner, ou suite à des impulsions. Des décisions ou des achats sous impulsion. Et après, on est pris avec la décision qu'on a prise ou avec ce qu'on a signé. Ou certains problèmes d'argent sont dus à une mauvaise façon d'administrer ou, comme je mentionnais au début du sermon, à l'absence de connaissances concernant même comment faire un budget. Et c'est important de savoir comment faire un budget. C'est notre plan, ça, d'activité par rapport à ce qu'on gagne. Et le principe est toujours très, très simple. Il ne faut pas qu'il sorte plus d'argent qu'il en rentre. C'est aussi simple que ça. Et je me rappelle, mon père nous disait, ce n'est pas le montant qui rentre qui est important, c'est ce qui ne sort pas. Autrement dit, c'est la façon de gérer ce qu'on gagne qui est important. Quelqu'un peut gagner extrêmement cher s'il dépense extrêmement plus qu'il gagne. Il est en dessous. Quelqu'un peut gagner très peu, avoir un petit emploi, mais faire attention à ses finances et réussir à s'en mettre un peu de côté. Celui-là est dans une meilleure position que l'autre qui peut gagner 20 fois ou 50 fois plus, mais qui dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Ça, c'est le principe le plus élémentaire et on le retrouve dans toute la Bible aussi. Les proverbes sont écrits pour nous aider dans ce sens-là. On va en voir plusieurs aujourd'hui dans le message. Et vous allez voir, c'est fort, c'est intéressant et c'est encourageant pour nous apprendre à développer la sagesse de Dieu dans nos comportements. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1. Si vous avez un petit marqueur, vous pouvez le laisser dans votre Bible. On va revenir régulièrement au livre des Proverbes durant le message aujourd'hui. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça, c'est notre base. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science ou de la compréhension, si vous voulez, comme c'est écrit dans la version du King James et dans l'original. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est non seulement croire que Dieu existe, mais croire ce qu'il nous dit de faire et lui obéir. C'est ça la crainte de Dieu. C'est mettre en pratique ce que Dieu nous dit pour avoir une vie équilibrée et réussie. Donc, la crainte de Dieu, c'est lui obéir. Et vous savez une chose? Ça, c'est la première étape du développement de la sagesse. Se mettre à obéir à Dieu, croire ce qu'il dit dans la Bible au point de dire « moi, je le fais ». Même si je ne comprends pas complètement, je le fais. Dieu dit qu'il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Hein? Et souvent, dans ma vie, il a fallu que je commence par mettre en pratique certaines choses sans les comprendre, pour après recevoir la compréhension. Et c'est le cas de tout le monde. Alors, la crainte de Dieu, c'est lui obéir. C'est la première étape du développement de la sagesse. Et si vous y pensez, c'est un résumé du premier commandement de Dieu. De rien mettre à la place du vrai Dieu, de mettre Dieu en premier dans notre vie comme étant l'être le plus important, celui qui dirige notre vie. C'est le résumé du premier commandement, le fait de lui obéir. Et c'est en même temps, si on le définit autrement, le sentier à long terme pour avoir la paix d'esprit et avoir satisfaction dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans notre situation. Même si notre situation est difficile, on peut avoir une satisfaction. Mais le monde rejette ça. Le monde a ses propres objectifs et ses façons de faire. Et le monde s'en moque. Parce que, un, la plupart ne croient même pas à Dieu. Et ceux qui croient à Dieu ne croient pas ce qu'il dit. Et ils ne croient pas non plus ses promesses. Si on regarde tout de suite après, au verset 8, il dit ceci. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Ici, il y a plus qui paraît au point de départ. C'est qui votre père? C'est Dieu. Si vous êtes des appelés de Dieu dans son Église, c'est qui votre mère? C'est l'Église. Vous êtes dans le sein de l'Église. Et vous êtes enseigné par qui? Par les serviteurs de Dieu qui vous transmettent ces enseignements pour vous aider à avoir une vie heureuse, plus équilibrée et pour vous préparer au monde qui s'en vient et à vos responsabilités. Formidable! Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'instruction de ta mère. Et verset 9, qu'est-ce qui va arriver? On aura de meilleures décisions et nous allons améliorer notre capacité de nous maîtriser si on s'en remet à Dieu. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 2, juste un peu plus loin. Proverbe 2, versets 1 à 4. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, à la compréhension, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence pour essayer de comprendre le plus possible et vivre selon ces lois-là, et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, autrement dit, si tu la cherches, cette sagesse-là, la façon d'agir selon Dieu, de tout ton cœur, réellement, qu'est-ce qui va arriver? Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel parce que tu auras commencé à la mettre en pratique et tu trouveras la connaissance de Dieu ou la compréhension de Dieu. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez comprendre le caractère de Dieu. Et plus vous allez comprendre son plan et votre place dans ce plan-là. Notre réussite dans la vie en tant qu'appelé, en tant que serviteur de Dieu, elle est liée au fait d'écouter et de mettre en pratique les directives divines. Mais j'ajoute ceci parce que c'est important. Parce que les membres de l'Église ont un double défi. Le défi de savoir administrer correctement, d'accord? Mais le double défi vient du fait qu'eux sont la cible privilégiée de l'adversaire de Dieu qui veut contrecarrer le plan de Dieu. Alors, à qui est-ce qu'il s'en prend? Aux enfants de Dieu, à ceux que Dieu appelle maintenant. Alors, c'est pour ça qu'on a un double défi, parce que lui nous met des bâtons dans les roues de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Nous devenons sa cible. Mais ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que Dieu le permet. Dieu n'en est pas surpris. Dieu le permet parce qu'à travers ça, il est en train de nous entraîner pour devenir des rois et des enseignants dans le monde de demain. Et nous devons avoir passé par ces étapes-là pour prouver à Dieu notre loyauté, pour prouver à Dieu notre fidélité, que nous allons faire les bons choix, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et que nous allons bien administrer les petites finances que Dieu nous donne. C'est encourageant de réaliser ça. Parce que Dieu nous prépare quelque chose de milliards de fois plus grand que ce qu'on peut imaginer et de milliards de fois plus grand que toutes les réalisations et tous les accomplissements humains. Mettez ça ensemble, tout ce que les êtres humains peuvent faire, physiquement, monétairement, n'importe quel projet, ce que Dieu a en tête pour vous et pour moi, c'est de faire des choses à un niveau beaucoup plus grand et à une proportion beaucoup plus grande dans l'univers après le retour de Christ et après le 1000 ans et après le 100 ans. C'est fantastique, parce que ça, c'est la perspective que Dieu a en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne. Alors, le principe clé, je reviens à ça, c'est notre premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et pas le Dieu argent non plus. Il doit passer, l'argent doit passer en second. C'est très simple. Rien ne doit interférer entre moi et mon Dieu. Rien ne doit être plus important pour moi que Dieu et que ce qu'il me dit de faire. Tout dans ma vie doit être basé sur ça. Tous les aspects de ma vie, pas seulement l'aspect financier dont je vous parle aujourd'hui, mais tous les aspects de notre vie. Et c'est graduellement qu'on arrive à le faire. Mais plus on le fait, plus Dieu nous bénit, il nous encourage, et plus on avance en appliquant ses enseignements, y compris, dans ce sens-là, la loi de la dîme. Parce que c'est une loi très importante. C'est une règle financière de sécurité. On n'en sort pas. Mais quand vous parlez de ça au monde, à quelqu'un qui ne connaît pas les lois de Dieu et qui n'est pas appelé, c'est complètement illogique. Comment, dans le monde où on vit, alors que c'est tellement difficile d'arriver, comment donner 10 % de notre revenu net à Dieu alors que la situation est difficile? Dieu est au-dessus de tout ça. Pour lui, ce n'est pas un problème. Et ceux qui le font en reçoivent les bénédictions en conséquence. C'est des promesses infaillibles de Dieu. C'est illogique pour le monde, mais ce n'est pas pour rien que le monde se retrouve dans la situation que je vous ai décrite tantôt, avec les endettements qu'on a et où les gens frappent des murs de faillite, non seulement d'individus, mais maintenant de pays, parce qu'on n'a pas mis en pratique les lois de Dieu. Dans le monde à venir, ce sera complètement différent. Proverbe chapitre 3, on est presque là, verset 9. Dieu en premier. Honore l'Éternel. Comment? Avec tes biens. Donc, il parle ici d'argent encore, de la dîme. Honore l'Éternel avec tes biens, la dîme et les offrandes. Et avec les prémices, les premiers fruits de ton revenu, le premier 10 % Et c'est tellement agréable quand on envoie l'argent à l'Église, quand on sait que c'est le premier montant sur notre revenu qu'on envoie à l'Église. Il y a une joie, ça, il y a un plaisir. Puis on sait qu'à cause de ça, d'autres vont être appelés, vont connaître la vérité et que l'œuvre s'accomplit pour la délivrance de l'humanité. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Formidable. Résultat, verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Maintenant, je vous précise quelque chose. Dieu va toujours prendre soin de nous, ça c'est sûr, si on est fidèle dans ces choses-là. Que notre situation soit pénible, moins pénible, abondante ou quoi que ce soit, Dieu va toujours nous donner les choses de base dont nous avons besoin. Et cette abondance-là dont il est question ici, ces richesses-là dont il est question ici, elles peuvent parfois être physiques, matérielles, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi en connaissance de Dieu, découverte de la vérité, appréciation. Ça peut être en paix d'esprit. Confiance à Dieu de le voir intervenir dans nos vies pour aplanir des sentiers, pour guérir, protéger, encourager, bénir les nôtres, parce que Dieu est un Dieu de famille. Et voyez-vous, l'abondance revient sous toutes sortes de formes de la part de Dieu. Soutien, encouragement, bénédiction. Ce qui veut dire qu'on doit, par contre, obéir. Je reviens à ça. Quelqu'un, dans le fond, et j'ai déjà vu ça aussi, quelqu'un qui dit, je n'ai pas les moyens de payer la dîme, si on traduit vraiment ce que la personne nous dit, c'est « je ne veux pas changer et je ne veux pas faire confiance à ce que Dieu me dit ». C'est simple, c'est simple. Et autrement, même si on ne voit pas que ça peut marcher, si on le fait, on voit que ça marche parce que Dieu nous bénit après. Et il nous demande de faire dans ce sens-là les premiers pas après que lui se soit révélé à nous. Formidable comment Dieu travaille. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'obéit pas. Je vous apprends rien. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne lui obéit pas. Écoutez, ce serait, comment est-ce qu'on appelle ça, contre-productif. Ce serait contre-productif. C'est comme si vous aviez un enfant qui se comporte mal et que vous lui donnez des bénédictions ou des récompenses parce qu'il s'est mal comporté. Vous lui apprenez quoi? Vous lui nuisez parce qu'il va continuer à mal agir. Alors qu'il a besoin d'être corrigé, vous le récompensez dans une mauvaise action. Alors, ce n'est pas surprenant que Dieu ne puisse pas bénir celui qui ne lui obéit pas. Ne pas payer la dîme, c'est un manque de foi, c'est un manque d'obéissance. C'est aussi simple, aussi clair que ça. Et il y a une prophétie vraiment intéressante sur la dîme. Allez à Malachie chapitre 3 et le verset 10, où Dieu parle des dîmes et des offrandes. Et dans le contexte, on voit que ça concerne en particulier le temps de la fin. Verset 10. « Apportez à la maison du trésor, à l'Église, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Dieu n'en a pas besoin pour lui-même. mais c'est pour accomplir l'œuvre, pour qu'on puisse annoncer l'Évangile, ce qu'on doit faire d'ici le retour de Christ. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Regardez, Dieu nous lance un défi. Moi, je m'en rappelle, les premières fois que j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, Dieu me fait une promesse, là, même si je ne vois pas comment ça peut se réaliser. C'est son problème, ce n'est pas le mien, mais il me fait une promesse. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Formidable! Bien sûr, ce n'est pas une promesse d'être millionnaire, mais Dieu va prendre soin de nous, selon nos besoins et selon les visées qu'il a pour nous amener à terme, puis nous amener à réussir, puis à entrer dans son royaume. Proverbe 37. Proverbe 37. Excusez, psaume 37. Psaume 37 et le verset 25. C'est David qui parle. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ça veut dire, j'ai pris de l'expérience. J'ai regardé ce qui se passait autour de moi. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Celui qui pratique la justice de Dieu. Même s'il n'est pas parfait, mais il s'applique à le faire. Il dit, j'ai jamais vu quelqu'un pratiquer la justice de Dieu, s'efforcer de le faire, puis être abandonné par Dieu. Quel encouragement extraordinaire. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous allez voir à quel point la promesse est précieuse. Rappelez-vous, Dieu est un Dieu de famille, ni sa postérité mendiant son pain. Ni sa postérité mendiant son pain. C'est précieux, cette promesse-là. Surtout dans les temps de dureté et de difficulté qui sont tout juste devant nous. Dieu est un Dieu de famille et Dieu dit, je n'abandonne pas le juste, ni sa postérité. Premier principe, mettre Dieu en premier dans toute chose. Rapidement, on va voir maintenant comment appliquer ça. On va voir 7 aspects de bonne administration financière, bonne gestion financière. Devenir, par exemple, un employé précieux et irremplaçable pour notre patron. Tout le monde, ou à peu près, on a un patron. De toute façon, on a un patron spirituellement aussi. Il faut faire les choses au mieux en ce qui le concerne, en ce qui concerne Dieu. Mais en ce qui concerne les emplois, ou ceux qui vont prendre des emplois, les jeunes qui sont avec nous, qui vont entrer bientôt sur le marché du travail, ça les concerne aussi. Ceux d'entre nous qui sommes encore sur le marché du travail, ça nous concerne. Être un employé précieux et irremplaçable. Première qualité, l'honnêteté. C'est lié avec les finances, l'honnêteté, et c'est lié avec la perception que les patrons ont de leurs employés, l'honnêteté. Une des grandes tentations vis-à-vis de l'argent, c'est d'être malhonnête. Quand il y a moyen de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas et qu'on peut s'en tirer, c'est donc tentant. Pensez au rapport d'impôt. Pensez au rapport d'impôt. C'est facile de dire, bon, telle chose, je ne dois pas avoir à déclarer ça parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un revenu, j'ai gagné ça à côté. Bon, si vous n'êtes pas sûr, ce que je vous dirais, appelez le ministère du Revenu. Demandez-lui si vous devez le déclarer ou pas. Vous allez avoir la conscience tranquille. Et toutes les chances sont que vous allez devoir le déclarer. Voyez-vous? C'est comme ça que ça marche. Mais si je veux être honnête, il faut que je le mette en pratique en toute chose. Pas de compromis. On a entendu une sermonnette superbe là-dessus. Ne pas faire de compromis. Parce que si je fais un compromis long comme ça, demain je vais en faire un long comme ça, après ça plus long, après ça, ben, c'est pas grave si je contourne la loi, voyez-vous? Ou je la fais, ou je la fais pas. Ou j'observe la loi, ou je ne l'observe pas. Si je veux observer la loi de Dieu, il faut que je m'applique à l'observer totalement. J'arrive pas peut-être tout d'un coup, mais il faut que je m'organise pour travailler avec l'aide de Dieu à y arriver, à être vraiment honnête. Si on vend quelque chose de seconde main, par exemple, une voiture, bon, est-ce que je suis honnête en vendant la voiture? Je demande tel prix pour ma voiture, elle a tel kilométrage, le moteur est en bonne condition, il y a ça, mais le tuyau d'échappement a besoin d'être changé, les freins sont finis, il y a telle chose. Si je dis à l'acheteur exactement ce que c'est pour le prix que je lui demande, je suis honnête. Mais si je dis cette auto-là, parfaite condition, vous n'aurez pas de problème. Tel prix, je vous la laisse à ce prix-là. Et qu'après ça, l'acheteur est mal pris, c'est lui qui paye pour, mais c'est vous qui êtes responsable. C'est moi qui est responsable. Parce que j'ai menti, j'ai été malhonnête. Voyez-vous, notre honnêteté doit être appliquée partout, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait. La Bible parle beaucoup de l'honnêteté. C'est très important aux yeux de Dieu. L'honnêteté en achetant, Proverbe 20, Proverbe chapitre 20, quand on achète quelque chose. Vous avez déjà vu ça, j'espère que vous ne l'avez jamais fait. On a déjà vu ces choses-là. Proverbe 20, verset 14. L'acheteur qui vient d'acheter quelque chose, qui vient de, comment je dirais, de tromper celui à qui il a acheté quelque chose, et il dit à celui qui vend, « Mauvais, mauvais, c'est mauvais ce que vous me vendez, ça n'a pas de qualité, ça ne vaut pas la peine. Mauvais, mauvais. » Et en s'en allant, il se félicite. Pourquoi? Parce qu'il l'a trompé. Il a fait croire à la personne que ce qu'elle vendait était mauvais ou ne valait pas le prix demandé. Il a fait baisser le prix. Et là, il se félicite d'avoir déjoué la personne. C'est la fraude. C'est une malhonnêteté. J'ai vu ça. Écoutez, certains brocanteurs, il y en a qui sont honnêtes. D'autres le sont moins. Ils vont dans les campagnes, ils vont voir les personnes âgées, et ils regardent les choses, leurs possessions qu'ils ont de côté depuis longtemps. Et là, ils leur disent, « Ah, ben, je peux vous donner une certaine valeur pour ça. Vous avez cette vieille chose-là ici, ça ne doit pas vous servir, ça a plus ou moins de valeur. Moi, je vais vous donner 5 $ pour ça. » Alors que le brocanteur sait très bien qu'il peut peut-être avoir 400-500 $ pour ça. Un vieux tourne-disque qui remonte à 100 ans. Et ce genre de choses-là. J'ai vu ça se passer, des gens être dépouillés de leurs biens pour une bouchée de pain comme ça. Alors, c'est ça. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, ils se félicitent. Ils ont trompé ces pauvres gens. C'est du vol, tout simplement. Dieu est contre cette pratique en affaires parce que c'est du vol. L'honnêteté plaît à Dieu et il bénit ceux qui la pratiquent. Et les employeurs, je reviens à ça, apprécient l'honnêteté de leurs employés dans leurs actions et dans leurs paroles. Dans leurs actions et dans leurs paroles. Le monde en général, lui, la société autour de nous, elle essaie de faire croire que la malhonnêteté, elle est bonne. Ils font croire que la malhonnêteté, elle est utile. Et certains s'en tirent très bien, mais nous, on ne doit pas faire comme eux. C'est ça, parce qu'on est différent. On représente une autre culture, culture tout à fait différente. Deuxième principe, se fixer des buts selon Dieu. Le premier principe, on a vu l'honnêteté. Deuxièmement, se fixer des buts selon Dieu. Et il en faut concernant nos finances. Alors, il faut faire les choses pour les bonnes raisons, de la bonne façon. Et là, on réussit. Les jeunes, par exemple, qui sont en préparation, qui sont aux études, ils doivent aller chercher des compétences. On doit leur montrer qu'ils ne doivent pas s'attendre à ce que tout leur tombe tout cuit dans le bec et qu'ils aient un gros salaire en commençant et qu'ils réussissent dans n'importe quoi sans d'abord s'être bien préparés. Il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils travaillent durement à l'école et qu'ils aillent chercher des compétences. Et en même temps, se bâtir une bonne réputation. Que les gens autour voient que c'est des personnes honnêtes. Que les jeunes le sachent ou non, ça se sait, ça se voit, ça se vit. Et ça devient une carte de visite ensuite. Et plus les jeunes le font, plus ils vont être remarqués à travers des autres. Et moi, je conseille aux jeunes qui sont en recherche de quel domaine ils vont aller, de choisir un domaine qui offre des bonnes possibilités d'emploi. Que ce soit dans les carrières libérales, comme professionnels, ou que ce soit dans les métiers. Il y a des très belles carrières dans les métiers. Et on en a besoin énormément. Il y a des domaines où ils sont en pénurie de main-d'œuvre et on prévoit que pour plusieurs années, ils seront encore en pénurie de main-d'œuvre. Alors moi, j'encourage les jeunes à choisir, dans ces domaines-là, une carrière où ils pourront bien gagner leur vie et où il y a de la demande suffisamment. Proverbe 22, on est tout proche, Proverbe 22 et le verset 29. Quand on s'est bien préparé, quand on est honnête, qu'on donne une bonne journée de travail, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ou une femme, une personne habile dans son ouvrage, elle se tient auprès des rois. Pourquoi il dit ça comme ça? C'est parce que la personne qui est honnête, la personne qui a du talent, qu'elle l'a développé et qui fait un bon travail, on remarque ses qualités à travers des autres, surtout dans le monde actuel, parce que les patrons vont vous dire que c'est de plus en plus difficile d'avoir de bons employés sur qui on peut compter et qui donnent une bonne journée de travail. Autrefois, c'était plus courant. Maintenant, ça l'est moins, parce que les gens sont plus relâches et sentent moins de responsabilité. La société a beaucoup changé, vous savez. Cette personne-là recherche la qualité en toute chose. dans son travail, dans ses relations avec les autres, elle se bâtit, autrement dit, une très bonne réputation. Elle s'est fixée des buts selon Dieu. Elle est remarquée. Et cette personne-là, à ce moment-là, autre clé, elle va s'efforcer de garder ses emplois. Ne pas changer par caprice régulièrement. Il y a des gens qui changent d'emploi régulièrement par caprice. Ne faites pas ça. Restez stable. Développez vos talents. Développez de faire du bon travail. Persévérez malgré les inconvénients. Parce que des inconvénients, il y en a partout. Dans tous les métiers, dans tous les travaux. Faire le meilleur travail possible sans se plaindre. Les gens se plaignent tellement aujourd'hui. Sans se plaindre. Faire le travail. Ça demande des efforts? Oui, mais je le fais. Je gagne ma vie avec ça. C'est formidable. Je suis content de gagner ma vie. Et je suis content d'avoir un travail. Sans se plaindre. Et ça, ça favorise la stabilité financière. Et c'est remarqué par les employeurs ou par d'autres gens autour. Et vous ne savez pas ce qui va vous revenir à un moment donné parce que vous avez fait les choses de bonne façon à un certain endroit. Vous n'aviez pas vu qu'on vous avait remarqué, mais après, c'est revenu parce que la Bible dit, ce qu'on sème, on le récolte. Mais on ne récolte pas le lendemain matin de ce qu'on a semé. Hein? Ça prend un certain temps. Mais il faut continuer à semer la même semence qu'on doit faire selon Dieu. Par rapport à nos buts, se faire aussi un plan d'épargne. Se faire un plan d'épargne. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Même si vous êtes avancé en âge, et ceux qui sont plus jeunes parmi nous, faites-vous un plan d'épargne dès que possible. C'est important. Même si ce que vous pouvez mettre de côté est minime, que ce soit seulement 5 $ par mois, ça va accomplir beaucoup plus que vous ne pensez. D'abord parce qu'avec le temps, ça profite. Avec le temps, ça profite. Et l'autre chose, c'est que ça développe en vous une discipline personnelle de vous restreindre de tout dépenser et de garder de côté quelque chose que vous ne touchez pas et que vous pourrez utiliser en temps de besoin ou en temps d'urgence. Voyez-vous ce que ça fait? Et ça encourage. Parce que quand vous savez que vous avez un petit montant de côté, même si ce n'est pas énorme, c'est une petite réserve qui peut être utile et qui va sans doute être utile. Maintenant, M. Vahovic mettait en garde contre quelque chose. Et moi aussi, je le fais parce que j'ai vu tellement de gens se faire prendre dans ces choses-là. Gagner de l'argent très vite et très facilement. Par toutes sortes de trucs qui vous garantissent de vous enrichir vite. Vous savez, joignez-vous à nous, là. Vous allez devenir notre représentant. Donnez-nous X montant, tel montant d'argent. On va vous fournir des produits extraordinaires qui guérissent tout à partir des ongles incarnés à aller à la perte de cheveux. Et vous allez vendre ces produits-là. Et vous allez surtout trouver d'autres gens qui vont vendre les mêmes produits. On va vous les fournir. Et eux vont nous donner un montant pour faire partie de l'entreprise. Et là, vous allez être en marche pour devenir très riche. Très rapidement, parce qu'écoutez, tous ces gens-là que vous allez recruter vont faire de l'argent qui va vous rester en partie. Mais la partie qui vous reste, elle est infinitésimale. Et ceux qui s'enrichissent, je l'ai vu, c'est ceux en haut. Eux reçoivent la grande partie de ce qui se passe. Et ce qui arrive, malheureusement, j'ai vu aussi, c'est que les gens qui embarquent là-dedans vont ratisser autour d'eux leurs parents, leurs amis, leurs gens proches, qui, pour les aider, parfois embarquent eux aussi. Alors, on maintient la chaîne de cette façon-là et beaucoup de gens en sont victimes. N'essayez pas de faire de l'argent très vite dans ces trucs-là et ces machins-là qui, dans le fond, sont malhonnêtes, qui parfois sont légaux, disons, mais immorales, pour la moindre des choses qu'on peut dire. C'est vraiment dommage. La motivation derrière tout ça, elle est bien simple. C'est la convoitise. Parce que ceux qui ont parti la pyramide, eux s'organisent pour que tous les tuyaux aillent chez eux. Alors, ils convoitent. Et qu'est-ce qu'ils font avec vous et avec moi si on embarque là-dedans? C'est qu'ils jouent sur notre convoitise. Devenez riche vite, vous aussi. Tout en disant pas que ça ne sera pas votre cas, là, mais vous deviendrez riche vous aussi si vous faites la même chose, à condition que vous recrutiez assez d'autres vendeurs, bien sûr. Voyez-vous? Alors, tout ça va ensemble. Alors, M. Vahovic disait, ne touchez pas à ces choses-là. Ne touchez pas à ces choses-là. Et ne pensez pas pouvoir vous enrichir vite de cette façon-là. La convoitise, dans ce sens-là, c'est l'ennemi numéro un de la sagesse, de la crainte de Dieu. Et Satan sait comment l'utiliser. Maintenant, troisième principe de la bonne gestion, la diligence. C'est quoi être diligent? C'est être appliqué, être soigneux, être zélé dans ce qu'on fait. même dans nos études, lorsqu'on est en préparation. Ce n'est pas populaire, parce que la société moderne, c'est une société de laisser aller, d'en faire le moins possible pour essayer d'en obtenir le plus possible. Ne rien donner, mais de tout prendre. On est rendu à cette étape-là, le plus possible. C'est malheureux. C'est un des problèmes majeurs de notre société, la loi de prendre. Et on n'enseigne pas, malheureusement, beaucoup aux jeunes dans les écoles à s'investir, puis à donner avant de recevoir. C'est une autre mentalité. M. Vahovic a rencontré des dirigeants d'entreprise et des chefs de haute direction de plusieurs industries au Canada à un moment donné, puis il avait demandé à un de ces grands patrons-là, il avait posé la question, il dit, quel genre d'employé est-ce que vous recherchez? Intéressant. Là, c'est un homme d'expérience qui répond. C'était le président de l'Association des compagnies de métallurgie au Canada ou quelque chose du genre. Et le monsieur a dit, ce que je recherche et ce que nos dirigeants d'entreprise recherchent, c'est quelqu'un qui se présente au travail à l'heure, quelqu'un qui donne une bonne journée de travail, quelqu'un qui peut parfois faire des heures supplémentaires si on a besoin, et quelqu'un qui est disposé à apprendre. Il dit, on va investir, puis on va lui montrer. Il dit, quand j'ai quelqu'un comme ça qui se présente à l'usine, il dit, je vais tout faire pour garder un tel employé. Voyez-vous, ce qu'on sème rapporte. Et c'est ça. Mais il faut donner d'abord. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. C'est le principe que Dieu donne. Travail sérieux, travail appliqué, faire la meilleure qualité et plus que demander, résultat positif et l'employé est vraiment considéré. Le manque d'ardeur régulière au travail produit le résultat contraire. Vous pourrez aller voir dans Proverbe 12, verset 11. Je vais vous le lire rapidement. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Voyez-vous, il investit des efforts, il attend, il prépare ses choses comme il faut. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Ne pas perdre son temps à des futilités. Constamment être à la télévision ou sur Internet ou sur iPad ou iPhone ou Facebook ou Twitter, c'est pas là que vous allez développer des talents, c'est pas là que vous allez développer une personnalité, ni non plus développer une situation financière stable et solide. Absolument pas. Travailler plutôt que de rêvasser, plutôt que de chercher à devenir riche très vite ou de regarder constamment l'herbe sur le territoire du voisin qui est plus verte que chez nous. Ça ne produit pas de bons résultats. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais vous, celui qui ne s'efforce pas de travailler ou qui rêvasse au travail, il a des désirs, il va avoir tellement de choses, mais il ne travaille pas pour. C'est ça. Il prend du temps, il prend de l'énergie pour désirer des choses qu'il ne pourra pas se payer, sinon à crédit, et pour s'embourber davantage dans une situation qui est déjà difficile. Je vous décris là, ce qui arrive dans beaucoup de cas, malheureusement. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Oui, parce qu'on atteint des résultats à ce moment-là. Pas seulement désirer des choses, mais travailler d'abord. Et ensuite, avec le produit de notre travail, là, s'acheter des choses et pouvoir vraiment les apprécier. J'aimais mes parents, puis beaucoup de gens de cette génération-là, puis encore un certain nombre le font aujourd'hui, qui ont gardé le même principe, mais ce n'est pas un grand nombre. D'abord avoir l'argent avant d'acheter quelque chose. Ça, c'est un principe de sécurité financière extraordinaire. Et là, après, on apprécie la chose qu'on a. Parce que quand elle arrive chez nous, elle est déjà payée. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, voyez-vous? On peut vraiment en jouir. Il y a un grand profit à ça. Et tout travail, comme Dieu dit, procure un profit, un avantage. Ça procure un avantage. Proverbe 14, verset 4, juste un peu plus loin. Proverbe 14, verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Pour nous, ça fait curieux de lire ce passage-là parce qu'on n'est pas dans une situation agraire comme c'était à l'époque. Mais à l'époque, il fallait qu'ils aient des bœufs. Parce que s'ils n'avaient pas de bœufs, ils ne pouvaient pas labourer. Il fallait avoir des bœufs pour labourer. Alors, c'est une bénédiction que d'avoir des bœufs. Mais il faut accepter les inconvénients qui viennent avec et les exigences qui viennent avec. Parce que pour avoir des bœufs pour travailler, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut en avoir soin, il faut les dresser, il faut les nettoyer aussi. J'ai fait ça pendant longtemps. Et c'est pas agréable nécessairement et ça sent pas nécessairement bon. Mais c'est un gros travail. J'ai fait ça à l'époque avec à la pelle. Et on mettait ça dans une brouette qu'on sortait à l'extérieur de l'étable et on versait ça dehors. Et là, on avait le plaisir de la pelleter une seconde fois parce qu'il fallait étendre la chose pour être capable de continuer à en mettre par la suite. Quand c'était en plus à moins 25 ou moins 30 ou moins 35 à l'extérieur et qu'il y avait un vent nordais qui vous arrivait sur le côté du visage, on peut peut-être appeler ça des inconvénients au travail, voyez-vous? Mais parce qu'on avait des animaux dans l'étable, qu'on pouvait avoir du bœuf et du lait, vous savez une chose? On pouvait vivre. On n'était pas dans une surabondance, mais on pouvait vivre. Alors, il faut accepter les inconvénients qui viennent avec tout travail et même l'apprécier. Il y a des conséquences au manque de diligence et il y a des conséquences lorsqu'on est diligent. Proverbe 24, verset 30. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces y couvraient la surface et ainsi de suite. Et regardez plus tard, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alors, on ne peut pas rester inactif et penser que les choses vont nous arriver comme par miracle. Au contraire, qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 9, verset 10. Dieu nous dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Donc, vas-y avec cœur dans tout ce que tu fais, dans tes études, dans tes recherches, dans ton premier emploi, dans l'emploi que tu occupes maintenant, mais de donner le meilleur rendement possible sans critiquer, d'aller au mieux, de faire au mieux et de passer à travers les exigences ou les inconvénients. Dieu veut que nous travaillions bien, que nous fassions des efforts soutenus dans des bonnes conditions, comme parfois dans des conditions plus difficiles. Et si vous regardez, c'est le même principe spirituellement. Travail, effort, persévérance, appliquer les lois de Dieu. Et c'est exigeant, parfois même dans l'opposition. Quatrièmement, comment prendre de bonnes décisions financières? La Bible nous dit d'être prudent, de ne pas suivre nos impulsions. Vous savez, le marketing moderne vise à créer, à susciter chez vous une réponse rapide, une réponse impulsive. On nous dit, regardez la chose, pensez peu, sortez votre porte-monnaie. Ce que Dieu nous dit, regardez, pensez, retirez-vous, pensez encore. Ai-je vraiment besoin de ça ou si je peux vivre sans ça? Puis deuxièmement, si j'en ai absolument besoin, est-ce que j'ai vraiment les moyens ou non? Et là, je peux prendre une décision éclairée. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 26, « Considère le chemin par où tu passes. » Considère, examine, pense-y, réfléchis. N'agis pas sur impulsion. Une autre chose à éviter, la caution, répondre financièrement pour quelqu'un d'autre. Cette fois, la Bible nous avertit de ne pas cautionner une autre personne, de ne pas répondre financièrement pour cette personne-là. Proverbe 11, verset 15. Proverbe 11 et le verset 15. « Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. » Parce qu'une fois que vous avez apposé votre signature, comme de quoi vous allez répondre ou vous allez payer l'emprunt que la personne a contracté, s'il ne la paie pas, c'est vous qui allez la payer automatiquement. Et là, je vais plus loin, et M. Vahovic expliquait ça très bien dans son message, et c'est important qu'on le sache. Vous savez, si quelqu'un ne peut pas être accepté par une banque pour avoir un prêt. Posez-vous la question. Si la banque ne l'accepte pas, il y a peut-être une raison pourquoi la banque ne l'accepte pas. Ça veut dire que la personne n'est pas en position d'emprunter. Ça veut dire que la personne ne peut pas se permettre d'acheter ce qu'elle souhaite acheter en faisant l'emprunt. La banque l'a vu, la banque dit non, le risque est trop grand pour nous. Et moi, je vais aller prendre ce risque-là à la place de la banque. Je peux avoir plus de chances de devoir payer l'emprunt que la personne soit prise à garder le bien et que moi, je sois pris pour rembourser. Vous savez, je vous donne un petit peu le contexte où nous vivons. C'est normal, d'après notre société, d'avoir des dettes. Je ne vous apprends rien. C'est normal d'avoir des dettes personnelles. C'est la mentalité actuelle. Mais si on recule dans l'histoire, vous lirez un peu là-dessus. Il y a 70 ans, ce n'était pas le cas. Absolument pas. Du temps de nos parents et de nos grands-parents, ce n'était pas normal d'avoir des dettes. C'était une faute, c'était une faiblesse, c'était une mauvaise gestion. Tout simplement. Les gens ne voulaient pas avoir de dettes. À la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé? Les industries se sont multipliées, industries de guerre. Alors là, ça a créé beaucoup, beaucoup de production. Mais après la Deuxième Guerre, la société a voulu continuer de produire, non pas des biens de guerre, mais des biens de consommation. OK, on a continué à rouler à plein régime et même à augmenter, mais là, ce n'était plus des biens de guerre qu'on produisait en premier, mais des biens de consommation. D'ailleurs, je vous mentionne que le mot « biens de consommation » n'existait même pas. Les biens de consommation, vous vérifierez, ça n'existait même pas à l'époque. Les gens n'achetaient que strictement ce dont ils avaient vraiment besoin. Ça, je me rappelle de ça, j'ai vu ça. Ils achetaient seulement ce dont ils avaient besoin. Mais après, on leur a dit, vous pouvez acheter plus. Il s'agit d'acheter à crédit. Vous allez avoir tout de suite ce que vous désirez, et puis bon, vous le payerez plus tard. Vous allez pouvoir rencontrer vos paiements. C'est ce que la Chine fait actuellement. Et elle augmente à beaucoup, beaucoup son endettement. Mais il y a un mur. Il y a un mur qui s'en vient. Vers la fin des années 50, la consommation a encore diminué. Qu'est-ce qu'on a fait dans les années 60, début des années 60? Là, les banques ont ouvert le crédit personnel. Avant, les banques ne prêtaient pratiquement pas. Moi, j'ai connu des gens qui avaient déjà une maison et qui étaient allés à la banque pour acheter une deuxième maison. Il y avait un peu d'argent, il y avait déjà une propriété et la banque a refusé. Là, je vous parle des fin des années 50, autour des années 50. Le crédit personnel était très, très, très limité, très, très, très restrictif. Alors, début des années 70, la consommation a diminué encore. Alors là, ils ont eu une nouvelle idée pour activer la consommation. Ils ont commencé à mettre sur le marché les cartes de crédit. Ça n'a pas toujours existé. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui pensent que les cartes de crédit, ça a toujours existé depuis l'âge de Noé, même un peu avant. Mais ce n'est pas le cas. C'est quand même assez récent que les cartes de crédit existent. Mais c'était pourquoi? C'était pour stimuler la consommation. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a augmenté encore l'endettement des gens. Et aujourd'hui, j'ai vu ça, et c'est tellement malheureux. Les banques courent après, par exemple, les jeunes étudiants pour leur offrir des cartes de crédit, même s'ils n'ont aucune base de crédit valable. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils s'endettent énormément et avant longtemps, ils sont pris à la gorge. Alors, comme vous voyez, la Bible parle beaucoup de nos finances personnelles et nous donne des principes qui sont importants. D'ailleurs, si vous allez voir Romains 13, verset 8, le principe est donné de façon générale et sur le plan spirituel, mais ça s'applique au plan physique. Paul dit « Ne devez rien à personne. Appliquez-vous à ne devoir rien à personne. » Et si on a des dettes, il faut les rembourser le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Parce que l'emprunteur est l'esclave de celui qui prête. Vous savez, je reviens à ça, une carte de crédit, c'est utile, c'est bon. Si on s'en sert comme il faut. Moi, j'ai été vraiment béni parce que quand c'est sorti, bon, je connaissais pas ça comme les autres, mais on m'a donné les bons conseils. On m'a dit, quand vous achetez quelque chose sur votre carte de crédit, soyez certain que vous ayez à la fin du mois le montant pour payer ce que vous avez acheté. J'ai toujours fait ça. J'ai jamais payé un sou d'intérêt. Jamais payé un sou d'intérêt. Ça me sert parce qu'en voyage et toutes ces choses-là, où parfois on achète des choses plus dispendieuses, au lieu d'avoir toujours de l'argent liquide, bon, ça a une certaine utilité. Mais il y a une façon de s'en servir. Parce que, écoutez, c'est une autre façon de faire de l'argent pour les banques. Je vous donne un petit exemple. Dernièrement, un des mois, j'avais 2 800 ou 3 000 $ sur ma carte de crédit. J'avais acheté des choses de plus. Et à la fin du mois, bon, j'ai remboursé, mais j'ai regardé. Aujourd'hui, ils sont obligés de mettre combien ça nous prendrait de temps pour rembourser ce montant-là, mettons 2 800, si je verse le montant minimal. Et ils nous invitent à verser le montant minimal. Hein? Alors, moi, je devais 2 800. On m'a offert, je pense, de payer 37 $ par mois, 35 ou 37 $ par mois pour rembourser le 2 800. J'ai regardé combien de temps que ça me prenait pour rembourser ça. Je pense que c'était autour de 24 ans. 24 ans. Vous faites le calcul. Oui. Vous regarderez sur vos relevés de carte de crédit. Si vous achetez et que vous donnez seulement le montant minimal, vous avez l'impression d'avoir fait une bonne affaire, ça coûte presque rien. Vous avez acheté pour 2 800, vous donnez 37 $. Et bon, 37 $ par mois. Mais là, vous allez continuer à consommer les autres mois aussi, là. Ça finit pas là. Mais seulement celui-là, là, si vous gardez celui-là parce que vous dites « je vais faire l'expérience », bien, au bout de 24 ans, vous compterez ce que vous allez avoir payé en intérêt. Parce que c'est de 18 à 24 % d'intérêt. Et M. Varovitch disait que les gens qui sont très, très fortunés, qui ont des cartes de crédit avec des montants très élevés, là, qui peuvent avoir sur leur carte 40 000, 50 000, 60 000 $, eux autres, ça peut monter jusqu'à 30 % d'intérêt. Alors, ils chutent pareil comme les autres, mais ils chutent plus fort un petit peu. Alors, ça fait un petit peu plus de bruit. Mais ce sont les banques qui en profitent. C'est dangereux. Il faut l'utiliser avec sagesse. Dieu veut que nous apprenions la maîtrise de nous-mêmes dans ces choses-là aussi. Ça rejoint le développement de notre caractère. On doit apprendre ces choses-là. Vous savez, à la fin des années 60 et 70, pour que les dépenses continuent de se faire, il fallait que le revenu familial augmente. Alors, il y a eu beaucoup de pression pour que les dames aillent sur le marché du travail. Et avec le temps, c'est devenu une nécessité. Et pratiquement tout le monde aujourd'hui, les deux sont pratiquement obligés de travailler. Parce que les prix, à ce moment-là, à cause de tout ça, à cause de la consommation et tout, ont augmenté de façon énorme. Et ce qu'on remarque quand on fait le calcul, c'est que les gens ne sont pas plus avancés là qu'ils l'étaient avant. Et parfois, ils sont moins avancés, ils sont plus reculés, financièrement parlant, dans une position plus instable, plus difficile. Donne un exemple que M. Varovitch a donné. En 1966, en Alberta, dans la ville d'Edmonton, une maison moyenne de trois chambres à coucher, prix moyen, 1966, 17 000 $. En 2015, la même maison, trois chambres à coucher, 500 000 $. Elle coûtait 17 000 $ là, elle coûte 500 000 $ une augmentation de 2 800. Pendant ce temps-là, de 1966 à aujourd'hui, les salaires ont monté comment? Ils ont augmenté de 900 seulement par rapport à 2 800 d'augmentation de la valeur des maisons. Donc, le prix d'une maison a augmenté trois fois plus que le salaire moyen. Ça veut dire des hypothèques énormes, énormes. C'est ça. Mais il faut faire attention aux choses. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je peux me permettre? Est-ce que j'embarque là-dedans? Je trouvais ça intéressant. M. Varovitch, il dit, ça m'a surpris parce qu'il dit, j'ai réalisé à un moment donné, dans le stationnement où il travaille, c'est un patron d'entreprise, il dit, ma secrétaire avait une BMW 9, puis il dit, une autre employée de bureau avait, qu'est-ce qu'il mentionnait? C'était une Lexus 9. Ouais, une Lexus 9. Il dit, moi, j'ai une vieille Buick de 10 ans qui a 200 000 km. Il dit, elle fait mon affaire, puis je la garde parce qu'elle me rapporte, elle me coûte pas cher et je peux vivre avec, je peux aller où j'ai besoin d'aller. Voyez-vous, il y a toute une différence, là. Donc, il y a des gens qui vivent à l'extrémité de leur limite de crédit, pour ainsi dire. Alors, il faut faire attention à notre comportement là-dedans. La richesse est trompeuse, vous allez voir. Proverbe 23, verset 4. Proverbe 23, verset 4. Les richesses sont trompeuses, il faut faire attention avec. Ne te tourmente pas pour t'enrichir et ne t'applique pas pour y arriver. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et c'est passager. Absolument. Proverbe 30, verset 8. Regardez ce qu'on doit demander à Dieu. Moi, j'ai aimé cette prière-là que David fait. Proverbe 30 et le verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Dieu se fait demander ça par David. David dit, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Donc, pas d'extrême. Aide-moi, Dieu, à avoir une vie équilibrée dans ces choses-là. M. Varovitch continue en disant, « Ne laissez pas la convoitise vous gagner en ce qui a trait à la loterie, en ce qui a trait au gambling, en ce qui a trait au casino. » Parce que les gagnants, ce sont les gouvernements et les casinos. Tout est calculé d'avance et ce n'est pas la façon divine de faire les choses. Dieu veut qu'on bâtisse les choses graduellement. Et moi, je sais par expérience personnelle, parce que j'ai connu des gens qui ont remporté déjà des gros montants, et la fin n'a pas été très, très heureuse. Parfois, ça a été comme un tsunami qui a bouleversé toute la famille. Et les autres membres de la famille en ont voulu à ceux qui avaient gagné parce qu'ils ne leur en donnaient pas une grosse partie ou qu'ils ne leur en donnaient pas, et ainsi de suite. Et ils ont perdu les membres de leur famille dans bien des cas, leurs amis. J'ai un ami qui avait gagné et à un moment donné, il voulait continuer sa vie normale et travailler. Mais les autres travailleurs à l'usine se sont mis à rire de lui puis à se moquer. Puis, alors, il a pas pu rester au travail même pour continuer une vie normale. Alors, c'est pas la façon de Dieu de procéder. Septièmement, la générosité. Cinquièmement, c'est notre comportement, donc, par rapport aux richesses. Septièmement, la générosité, qui est un trait de caractère de Dieu. Avec les biens que Dieu nous donne, faut être généreux. Et ça permet à Dieu de nous bénir. Si je paye la dîme, si je suis généreux dans mes offrandes, si j'aide ceux qui ont besoin autour, dans ma famille spirituelle, dans ma famille physique, Dieu nous bénit, Dieu le voit. Et la générosité, c'est pas nécessairement financièrement tout le temps. Ça peut être financièrement, mais ça peut être un sourire, ça peut être d'inviter quelqu'un à prendre un café, ça peut être d'aller le visiter, ça peut être la miséricorde, ça peut être un coup de téléphone, toutes ces choses-là. Dieu nous enseigne ces principes-là, dont je vous ai parlé. L'honnêteté, se fixer des buts selon Dieu, une bonne éthique de travail, prendre des bonnes décisions financières selon Dieu, être généreux, éliminer les dettes, et prudence dans nos achats. Et si on fait ça, ça devient un abri que Dieu nous donne. Proverbe 10. Deux derniers versets rapidement. Proverbe chapitre 10, versets 2 et 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Encore une promesse en rapport avec notre façon d'utiliser, selon Dieu, l'argent qu'il nous donne. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Proverbe 15, juste un peu plus loin, un dernier passage, versets 16 et 17. « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Voyez-vous, voilà la chose qu'on peut demander à Dieu. « Ne me donne ni grande richesse ni pauvreté. Donne-moi ce que toi tu juges que je peux manipuler, manœuvrer, et avec laquelle je peux apprendre à être généreux et à me rendre au royaume. » On doit s'appliquer maintenant à comprendre et à mettre en pratique les lois divines parce que ça nous prépare à très bientôt, je vous le rappelle, ça nous prépare très bientôt à devoir enseigner ces mêmes principes-là à un monde qui va sortir d'un contexte qui va avoir explosé totalement et où les gens auront absolument besoin d'apprendre les règles de base en toutes choses. Que ce soit dans la vie familiale, que ce soit en hygiène, que ce soit en administration financière, dans tous les domaines de la vie. C'est pour ça que je vous ai donné le message aujourd'hui à partir de ce que M. Varovitch nous avait montré, parce que c'est un des aspects de la vie qui est important, non seulement pour nous, mais ce qu'on va pouvoir donner aux autres dans le monde à venir.